dans la cour des grands. Une émission réalisée par les élèves du collège Jacques Prévert de Pont-Vallin. Bonjour à tous les auditeurs qui nous retrouvent chaque samedi à 14h dans la cour des grands. Cette émission est placée sous les auspices de la musique et de l'écriture, car vous allez entendre le premier épisode du Tueur Maléfique écrit et raconté par Steve. Solal lui posera ensuite quelques questions. Solal sera également l'invité de notre plateau pour qu'il nous parle du saxo. Il sera interviewé par Juliane. Nous échangerons aussi autour de la musique des studios Ghibli. On poursuivra l'émission avec Maëlan qui nous parlera également de la musique et des problèmes des fausses notes lors des concerts. Enfin, Célian nous présentera sa lecture du moment. Mais tout de suite, retour sur une actualité du collège, la pose de nichoirs artificiels. Très bonne écoute sur Radio Prévert. Bonjour, alors je suis en compagnie de Claire Aubry. Claire Aubry, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Oui, bonjour. Je suis gestionnaire en établissement scolaire au collège Jacques Prévert à Pont-Vallin.
Aujourd'hui, je viens vous voir parce que depuis toute cette semaine, on entend plein de bruit dans le collège et je vois qu'on installe des nichoirs un petit peu partout sur les parties sud, est de l'établissement. Alors, des nichoirs artificiels, soit très haut, soit sous les fenêtres. Et puis, j'ai vu un nichoir qui semblerait être un nichoir à chauve-souris. Pouvez-vous nous en dire plus ?
C'est exact. Donc depuis déjà plusieurs années, nous avons des infiltrations d'eau dans l'établissement. Pour pouvoir faire les travaux, il nous a fallu demander un permis de destruction de nids puisque nous accueillons également des espèces protégées qui sont le martinet noir, le moineau et les chauves-souris. En l'occurrence. Et donc, pour pouvoir faire les travaux d'étanchéité de la façade, il nous fallait obtenir cet arrêté de destruction de nids accordé par la préfecture. Donc, celui-ci a été accordé il y a peu de temps, mais il fallait installer des nichoirs de substitution. Donc, il y en a sur chaque façade, qui ont été installées à différents niveaux, effectivement. Donc, pour les moineaux et les chauves-souris, au premier étage. Pour les martinets, le plus haut possible, donc au dernier étage.
Et alors, comment ça se passe ? Donc, vous dites qu'il y a des problèmes d'infiltration. On se rend compte qu'il y a des oiseaux qui nichent. Comment on fait l'inventaire de ces oiseaux ? Comment ça s'est passé ?
Alors, en fait, effectivement, on se rend compte assez vite qu'il y a des oiseaux qui nichent. Donc, après, il y a une déclaration auprès de la préfecture. La préfecture mandate des personnels de la Ligue de protection des oiseaux. Hein, c'est souvent eux qui viennent faire l'étude, en fait. Donc là, ils sont venus pendant une journée, une nuit, comptabiliser le nombre d'oiseaux qui nichaient à ce moment-là, répertorier les endroits d'entrée et de sortie dans l'établissement. Sur cette base-là, la préfecture détermine le nombre de nids à installer pour qu'ils puissent nicher une fois qu'on aura bouché les trous. En plus, on a un temps très limité pour pouvoir effectuer ces travaux puisque il faut que les nids soient installés avant le début de la nidification.
Alors, les martinets arrivent un peu plus tard dans l'année, mais effectivement, les moineaux, tout ça, ça demande...
Voilà, donc ça doit être fait avant début avril pour les moineaux et avant fin avril pour les martinets.
Ils sont faits de quelle matière, ces nichoirs ?
C'est en béton. Pas pour les chauves-souris. Les chauves-souris, c'est en métal avec à l'intérieur des tissus. Pour les autres, c'est des nichoirs en béton qui n'ont pas tout à fait le même diamètre d'entrée suivant l'espèce.
Oui, il y a plusieurs formes, donc on verra très vite si cela fonctionne. On pourra venir au collège observer ces futurs nichoirs habités, peut-être.
Voilà. Donc le département, qui est donc propriétaire des locaux, doivent 5 ans de restitution auprès de la préfecture après installation des nids. C'est-à-dire que tous les ans, ils devront faire un bilan d'occupation ou non des nichoirs qui ont été installés.
Merci.
De rien, bonne journée.
L'histoire du tueur maléfique, présentée par Steve, premier épisode. Il était une fois, dans la ville de New York, un tueur en série se promenait dans le parc, et soudain, il dégaina son arme, et tua un pauvre pigeon. Oh, quelle tristesse! Mais il ne savait pas qu'un ninja légendaire l'observait du haut d'un arbre. Il bondit derrière lui, et essaya de lui mettre un coup de pied. Mais le tueur maléfique fit une esquive de la loutre, et le combat s'engagea. Le ninja légendaire sortit une attaque Katon, embrasement suprême, et le tueur bondit dans l'arbre pour canaliser son énergie. Parce que c'était un ancien ninja qui avait déserté son village. Il lança l'attaque Kraiton, éclair foudroyant, et le ninja légendaire se replia stratégiquement dans les rues de New York. Que va-t-il se passer? On le saura dans le prochain épisode du Tueur Maléfique.
Steve, comment as-tu eu les idées pour cette histoire?
Bah, je me suis dit, déjà, je voulais créer une histoire. Je me suis inspirée aussi de Naruto. Donc, je pense que vous savez, c'est un manga très connu et aussi il y a une série. Et je voulais faire une histoire comme ça. Et voilà.
Cette histoire est en plusieurs épisodes. Tu penses que tu vas en faire combien?
Je ne sais pas parce que ça va être, je pense. Si je devrais dire combien d'épisodes, je pense 9 à peu près, je pense.
Ah ouais, c'est beau. Et tu vas mettre toutes les attaques qu'il y a dans Naruto?
Pas toutes les attaques, mais toutes les types d'attaques. Donc Suiton, Katon, Doton, Raiton, et voilà.
Ok. Il y en a combien, du coup?
Donc il y en a 5.
Merci, Steve. On a hâte de t'écouter pour le prochain épisode de Le Tueur Maléfique, c'est ça?
Oui.
Du Tueur Maléfique.
Ok, merci.
Nous accueillons Solal. Solal qui joue du saxophone. Pour lui poser des questions, je suis accompagnée de Julien. Bonjour.
Good morning
Julien.
À tous.
Et de Lila Perle.
Bonjour tout le monde.
Solal, on t'a vu jouer de la musique, c'était le 20 décembre, est-ce que c'est bien ça?
Oui.
Le 20 décembre,
oui.
pour la fête de Noël. Donc c'était la première fois qu'on te voyait jouer du saxo. Du coup, on a décidé de te faire revenir à la radio pour te poser des questions sur tes activités. Depuis quand est-ce que tu joues du saxo?
Je joue du sax depuis 4 ou 5 ans.
D'accord. À quel endroit tu... Quelle
école? J'en fais à Maillé et au Lude aussi.
Qu'est-ce que tu joues comme style de musique?
Je joue un peu de tout. Je joue des musiques de films des studios Ghibli et en ce moment je joue un morceau de jazz.
Alors on rappelle ce qu'est le studio Ghibli. Est-ce que dans la salle vous savez ce que c'est que les studios Ghibli?
Oui, le studio d'animé, de manga.
Ouais, exactement, de Miyazaki.
Oui. Pourquoi t'as commencé à toucher le saxophone?
Eh bien, j'avais testé 5 instruments et puis j'avais testé le saxophone et puis j'ai adoré le saxophone. Puis le prof aussi, il est sympa le prof.
Alors c'est qui le prof?
Le prof c'est Alexis Marchand.
Quels sont les autres instruments que tu as essayés? Pourquoi tu les as abandonnés du coup ces instruments?
J'avais essayé la flûte, la trompette, le violon. Et les percussions et le saxophone, du coup.
Ça veut dire que la première année, en fait, vous pouvez tester plusieurs instruments avant de pouvoir choisir vraiment celui que vous allez étudier. Et vous, est-ce que vous jouez de la musique, Lila Perle?
Moi, je joue un peu de piano.
D'accord. Et tu prends des cours aussi?
Non, je fais ça chez moi.
Et moi, non, aucune chose. C'est le saxophone, je l'ai joué depuis 1980, jamais. Et bon, où c'était le lieu où tu as commencé à utiliser le saxophone?
Ah, c'était au Lude, à l'école de musique du Lude.
Est-ce que vous faites des concerts?
Oui, 200%. J'en ai fait un samedi. Mais samedi, j'ai pas joué de saxophone, c'était avec la formation musicale.
Alors tu jouais
de solfège.
Tu jouais de quoi alors?
Ah, je jouais des morceaux que mon prof de solfège il nous a écrits.
Bah avec quel instrument?
Ah, avec du saxophone.
Ah, d'accord.
En un an, tu fais combien de spectacles?
Je dois faire 5 ou 6 spectacles en un an. Après, au mois d'avril, je vais faire un stage de saxophone où on peut dormir là-bas et je... Et du coup, mon prof, il en a parlé à ma mère et maman, du coup, elle m'a inscrit. Et ça a l'air d'être trop bien.
C'est quoi, une semaine de stage?
5 jours.
5 jours?
De 9h à 17h, on fait que du saxophone.
Alors, on pourrait t'écouter jouer. Tu dis que tu joues les musiques du studio Gilby. Tu joues quelle musique?
J'ai joué Kiki la petite sorcière. J'ai joué Mon voisin Totoro. Le château dans le ciel aussi.
D'accord.
Et Ponyo, mais Ponyo, c'est un long morceau.
Est-ce qu'on pourrait t'entendre jouer un extrait?
Oui.
Oui. Non, moi non, oui. Studio Ghibli, s'il vous plaît. Celui des Ponyo. Totoro? Totoro. On y va contre Totoro. Il se prépare. L'émotion d'écouter Totoro, ici dans le club de radio.
Et du coup, les studios Gilby, c'est quel style de musique alors? Qu'est-ce qu'on... Tu sais pas?
C'est vrai que le studio Gilby, ça mélange un peu la chanson avec de musique classique et un peu de musique d'action. Et... Oui, c'est drôle. Mais ils utilisent beaucoup des fois des choses, des instruments de musique classique. Presque tout le temps, on utilise ça.
Ouais, c'est vrai.
Dans le voyage de Chihiro, Totoro... En plus, le film de Ponyo, en tout ce type de film, il utilise beaucoup la musique classique.
Là, on était presque dans du jazz, je trouvais.
Quoi?
En tout cas, dans la manière dont tu jouais, ça faisait presque du jazz aussi.
Pourquoi t'as une chanson de Totoro dans les feuilles? Pourquoi, dans la liste des chansons, t'as une chanson de Totoro?
Ah, parce que mon prof, il essaye de varier les musiques. Oui, voilà, il essaye de faire varier les musiques.
C'est lui qui propose en fait, c'est pas toi qui dis tiens, moi j'aimerais bien jouer.
Parfois, avec l'ensemble ou le quatuor, on dit, il nous propose, il nous dit s'il y a des musiques qu'on aimerait, mais souvent c'est lui qui choisit du coup.
Vous avez un quatuor?
Oui.
Peut-être on a deux micros.
Oui, du coup on doit être 10 dans la classe de saxophone et on a aussi deux quatuors, le quatuor avec plutôt des enfants et celui avec plutôt des adultes.
Et toi, qu'est-ce que tu aimes jouer? Qu'est-ce que tu préfères jouer?
Bah, la musique du studio Ghibli, j'aime bien.
Pourquoi?
Bah, j'aime bien les musiques, elles sont belles.
Est-ce que quand tu joues la musique du studio Ghibli, tu penses au film? Tu revois des scènes des films?
Oui.
Dans quel film, par exemple?
Bah, celui-là, par exemple. Parce que de toute façon, celui-là, Ponyo, je l'ai pas vu. Mais la musique, je l'adore, par contre.
D'accord. Un joli film aussi, Ponyo. Tu l'as vu, toi, Julien?
Ah oui, moi, j'ai vu 4 fois le film avec ma sœur. Et vous voulez que je raconte un peu c'est quoi exactement?
Oui, si tu veux.
L'histoire, ça raconte de deux personnages exactement. C'est le père et la mère d'une petite fille qui s'appelle Ponyo. Mais il y a des centaines et des centaines de filles. Et c'est tout ça, ça se passe dans l'eau. Son père, c'est humain. Mais il y a des pouvoirs magiques qui le donnent le pouvoir de contrôler des choses de la mer et tout. Et Ponyo... que c'est une de les centaines de filles qui est dans l'eau, que c'est une représentation de les poissons avec un visage humain, pour dire comme ça. Il utilise un peu de ses pouvoirs pour sortir et aller à la vie où il y a des personnes. Là-bas, il connaît, dans la île, il connaît un petit enfant, que je me rappelle plus c'est quel son nom, mais qu'il aide à sortir de l'eau et avec le temps et quand il arrive à la maison, il se transforme dans une personne avec ses pouvoirs magiques. Et puis le père commence à la chercher et... pas dire le final.
Non, ne raconte pas la fin du film. Mais oui, voilà, ça se passe dans l'océan, effectivement, et sur les côtes du Japon. Quel est le film que vous avez préféré, vous, des studios Ghibli?
Mon voisin dans le ciel. Le château dans le ciel, j'ai bien aimé, mais je pense que c'est quand même mon voisin Totoro, mon préféré.
D'accord.
Mon préféré, c'est le voyage de Chihiro.
Lui, je l'ai pas vu.
Moi, je vois pas trop c'est quoi le...
T'en as pas vu?
Non, je crois pas.
Moi, c'est pareil, le voyage de Chihiro et Princesse Mononoke.
Je n'ai pas vu ces deux-là.
C'est un peu pour les plus grands, effectivement. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire ton instrument?
Bien, tout en haut, il y a le bec, ça ressemble un peu à un bec d'oiseau. Et je mets une petite tranche de roseau qui me permet de faire vibrer le son. Parce que si ça ne vibre pas, il n'y a pas de son qui sort.
D'accord.
Et puis pour attacher l'anche, ça s'appelle la... Au bec, je mets une ligature, ça s'appelle, un petit truc pour qui attache. Après, il y a le bocal, c'est un peu courbé, ça permet de relier le bec au corps. Et après, il y a le corps avec les touches et les clés.
Est-ce que tu sais quand cet instrument a été créé?
Je sais que dans les années 1800 et quelques, mais je n'ai pas la date exacte.
D'accord. Est-ce que votre professeur vous donne un petit peu des cours d'histoire, justement, sur cet instrument? Non. C'est vraiment vous jouer
Oui.
Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande?
Oh, je pense pas que je sais pas trop, mais je suis pas sûre que ce soit un rapport avec la musique.
C'est vrai?
Oui.
Ça, c'est juste une passion à côté?
Oui.
Est-ce que tu fais autre chose que la musique?
Je fais du handball aussi.
Et si tu commences à gagner beaucoup d'argent avec ta passion, qu'est-ce que tu ferais?
Je sais pas.
Tu veux dire si gagner beaucoup d'argent en faisant des concerts?
S'il y a du talent.
Alors, est-ce que tu as du talent, Solal? Est-ce que ton prof te dit que tu as du talent?
Bah, non, mais... Il dit un peu à tous, mais par rapport à certains d'autres qui font du saxophone, non.
Il vous encourage?
Oui.
Ouais. Alors on va écouter un dernier morceau, Solal. Qu'est-ce que tu nous proposes?
Je vais jouer du coup Le Château dans le ciel.
Pourquoi ce morceau-là?
Parce que ça a été le premier grand morceau que j'ai appris et que j'adore, je trouve qu'il est trop beau.
Ok, on t'écoute.
Il se prépare.
Merci beaucoup Solal, merci d'être venu sur le plateau et puis merci Julien et Ali Laperle d'avoir posé des questions. Aujourd'hui nous sommes très nombreux autour de cette table, nous avons Maëlan, bonjour Maëlan.
Bonjour.
Qui va nous parler de...
La musique, de ce qu'est la musique. de ce qu'est la musique. Nous avons Steve. Bonjour Steve.
Bonjour.
Solal.
Bonjour.
Célian.
Bonjour.
Marie.
Bonjour.
Et à la régie, Margot et Lilou.
Ils nous font de grands coucous.
Eh oui. Maëlan, tu voulais nous parler de musique aujourd'hui. Nous t'écoutons.
Bonjour, je m'appelle Maëlan. Je vais vous parler de ce qu'est la musique. La musique n'est pas que l'instrument, mais aussi les notes et la lecture de notes. Le plus difficile, c'est les fausses notes. Je vous assure que c'est compliqué de ne jamais faire de fausses notes. Vous savez comment les musiciens et les chanteurs font pour ne jamais faire de fausses notes? Ils en font toujours une, mais on ne peut pas le savoir. Moi, mon prof de piano m'a donné une technique pour faire croire qu'on ne fait jamais de fausses notes. Bah, c'est simple. Il suffit juste de ne pas faire de grimaces, de têtes bizarres. Car les spectateurs vont le savoir à notre visage. On a l'habitude de, dès qu'on fait une fausse note, on fait une tête bizarre parce que, bah...
On fait une grimace.
Ouais, voilà, parce qu'on... Ah, crotte.
C'est compliqué de le cacher.
Non, justement, faut que tu restes concentré sur ta partition et même si tu fais une fausse note, tu restes concentré.
Tu souris.
Enfin, faire comme si c'était partie de la...
De la musique. De la musique.
Comme si c'était naturel.
Parce que de toute façon, les spectateurs, ils font pas de la musique, la plupart.
Sinon, aussi, les chanteurs ou les musiciens connus sont capables de répéter leur partition sans regarder leur partition. Parce que, en gros, moi, ma prof de piano, on allait faire un concert de fin d'année. Et, bah, en gros, elle a dit si tu veux ne pas faire de fausses notes, et bah, faut que tu saches réciter ta partition sans la regarder, avec les notes et tout. Et ça, c'est compliqué. Les notes, elles, bah, faut les apprendre, prendre par cœur, toutes les notes. Ça, à la limite, c'est facile. Mais il faut apprendre leur gamme, leurs altérations, leur mineur et du coup leur majeur. Il faut aussi savoir connaître où elles se situent. Il y a aussi les différentes sortes d'instruments, les instruments à vent, les instruments à cordes. Il y a aussi les différentes sortes de flûtes, de piano, de batterie, de guitare. Nous devons aussi apprendre les différentes clés, même s'il n'y en a que deux, en vrai trois, dont une qu'on utilise plus. La clé de ut, c'est l'ancienne clé de sol, mais dans les clés, il y a la clé de sol et la clé de fa. Savez-vous pourquoi les clés s'appellent comme ça?
Non, moi je sais pas.
Aucune idée?
Non.
Bah, je te laisse répondre.
La raison est parce que le milieu de la clé de sol et de fa se situe où se situe la note. Par exemple, la clé de sol, le milieu de la clé de sol où on commence à la dessiner, bah, ça va être sur le sol, la ligne du sol. Et pareil pour la clé de fa.
Mais pourquoi on appelle ça une clé?
Parce que c'est la première, enfin,
c'est l'ouverture.
Oui, voilà.
L'ouverture.
D'accord.
Petit quiz, avez-vous bien retenu? Pourquoi la clé de sol et la clé de fa s'appellent comme ça?
Bah parce que c'est l'ouverture, non?
C'est là où commence la partition, c'est sur l'ouverture.
Parce que le début de la clé commence sur la ligne de la note.
C'est ça.
Alors, il faut dire que nous avons quelques musiciens autour de cette table.
Pourquoi est-il compliqué d'apprendre un instrument selon vous?
Faut retenir toutes les notes et comment jouer, enfin comment mettre les notes sur l'instrument du coup?
Bah, l'instrument, ça varie en fait, parce que le piano c'est des touches, alors que la flûte ça va être les doigts, mais ça va être sur
des espèces de plateaux, c'est des plateaux.
On appelle ça des plateaux. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, moi je suis pas musicien donc. Bah, il faut connaître toutes les notes, comme tu l'as dit, les altérations, les dièses, les bémols, les tout quoi.
Comme dit, il y a Soleil aussi qui joue du saxo, faut aussi savoir poser son souffle, ça dépend des instruments qu'on joue.
Moi, je faisais de la flûte traversière.
Ouais, justement, donc il faut aussi doser, j'imagine, le souffle.
J'espère que ce mini-exposé vous aura plu et que ça vous aura informé de choses que vous ignorez. À bientôt pour de nouvelles informations.
Je peux poser une question?
Ouais.
Toi, du coup, tu joues du piano, mais vu que les notes, c'est les mêmes, si jamais tu fais, par exemple, de la flûte, vu que c'est aussi des doigts, tu penses que tu y arriverais ou pas?
C'est
en même temps, c'est en fonction avec le souffle aussi, oui.
J'arrive à jouer du piano, donc je sais juste où sont les notes. J'arrive à faire quelques liaisons, mais vraiment pas énormément.
Oui,
et c'est absolument pas la même chose parce que les doigts, c'est pas comme sur le piano où Do et Ré, ils sont à côté. C'est la gym des doigts, en gros. J'appelle ça, moi, la gym des doigts. Faut bouger les doigts. Un côté, tu vas avoir de la main droite, tu vas avoir deux doigts de poser. Dans la main gauche, tu vas en avoir bah, tu vas voir les 5. C'est vraiment ça qui est différent.
Moi, ce serait très difficile parce que tu vois, sur le piano, il y a la clé de fa et la clé de sol. Comparé à la clé de à la flûte, il n'y a que la clé de sol.
Oui.
Comme pour le sax.
Comme pour le sax. Il y a très peu d'instruments où il y a les deux clés. Moi, ce serait difficile parce que j'ai l'habitude de jouer avec les deux clés.
Et dernière question. En fait, je vois que sur le piano, il y a des pédales. Mais ça change quoi en fonction des notes?
Alors, il y a trois pédales. La pédale à gauche, elle sert à diminuer le son. Donc, en gros, dès que tu appuies, le son est moins fort.
Mm-hmm.
Il y a la pédale centrale qui, elle, dès que tu appuies et qu'après tu fais une note, et ben, ça va résonner. Comparé à la pédale droite, t'appuies, si t'étais déjà sur une note, elle va commencer à résonner. Que la pédale centrale, c'est plus difficile de faire résonner avec. Du coup, moi, j'utilise le plus la pédale de droite.
Parce qu'en fait, mon tonton, enfin ma mère, elle jouait du piano. Et elle en a un électrique où est-ce qu'il faut brancher. Et du coup, il n'y a que deux pédales. Et c'est pour ça que toi, tu me parles d'une pédale centrale, mais moi, j'en vois que deux sur le piano.
Alors, ça dépend les pianos. Moi, c'est un piano électrique. Donc, c'est pas un vrai piano. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai trois pédales. Mon tonton, lui, il a un piano normal avec que deux pédales. Sauf que elle, ses pédales, et bah, elles font pas la même chose que mes pédales. Du coup, bah, c'est difficile de jouer d'un piano à l'autre parce que c'est pas forcément la même chose.
Pourquoi tu ressors un piano électrique qui a qu'une seule pédale?
Non, il y en a trois. C'est un synthé où il y a une seule pédale. Ouais. Synthé et piano électrique. C'est pas la même chose.
Synthé, c'est, vu qu'il y a une seule pédale, ça fait quoi?
Ça fait résonner. Mais le synthé, c'est pas un vrai piano. Il a que 66 touches comparé au piano électrique qui a 88 touches comme tous les autres pianos.
Ok.
Et est-ce qu'on peut avoir plus que 3 pédales?
Oui, c'est possible. Sur les orgues. Les orgues, t'as beaucoup plus de pédales. Aussi, à l'école de musique, là, à Mancini, il y avait un piano avec je ne sais combien de pédales. Et en gros, ça servait... on avait un piano à 2 étages. En gros, il avait premier étage ici, deuxième étage, un peu plus aigu. Tu vois?
Oui, je vois. C'est un peu comme un orgue, mais sans
les... Ouais, c'est ça. Sauf que lui, les pédales, c'était toutes les touches.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est un orgue électrique, peut-être?
Non, c'était un piano.
Oui, c'était absolument parce qu'il y avait deux plateaux et c'était trop bizarre.
Ouais, c'était trop bizarre.
Pas d'autres questions?
Non.
Eh ben, merci tout le monde. Merci Maëlan pour cette petite exposée sur la musique. Et merci à vous d'avoir posé des questions.
Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Célian et je vais vous présenter un roman pour ados de Victor Dixon, L'Agence Perdido. Chaque jour, des objets et des gens disparaissent. Vous les pensez perdus? Ils ont été volés par des créatures venues d'un autre monde pour arracher des morceaux d'une autre. On les surnomme les croque-mitaines. Je vais vous lire le résumé de L'Agence Perdido. La vie de Lucie bascule quand sa mère disparaît mystérieusement. La jeune orpheline est réduite à voler dans les trains de New York pour subsister. Jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Rita Perdido, une femme entourée de secrets qui lui propose de rejoindre son agence de retrouvage. Lucie découvre qu'elle fait partie d'une caste en voie de disparition. On les nomme les retrouveurs, qui ont le pouvoir de pénétrer dans les oubliettes pour en rapporter les objets, les personnes et les souvenirs perdus. Persuadée que sa mère a été enlevée par un croque-mitaine, Lucie se lance à sa recherche. Mais à mesure que s'éteignent les derniers retrouveurs, les croque-mitaines gagnent en puissance et préparent leur effroyable revanche contre la surface. Que va-t-il se passer? Lucie réussira-t-elle à retrouver sa mère? Vous le saurez en lisant L'Agence Perdido de Victor Dixon.
Bonjour, je m'appelle Solal et je vais poser des questions à Célian sur le livre Agence Perdido. Célian, comment
ça se prononce? L'Agence Perdido.
Ok. Ça se passe quand, l'histoire?
En fait, c'est un peu compliqué. L'histoire, elle est au départ, là, au tout début, ça se passe quand sa mère disparaît.
Oui.
Et en fait, c'est un peu le début de l'histoire. Et après, on est un an après où est-ce qu'elle va découvrir qu'elle fait partie de, d'une agence. Fin...
Et ça se passe en quelle année?
Je ne sais pas, c'est pas dit non plus dans le livre.
Et il y a combien d'épisodes?
J'ai vu que le 1, donc je ne sais pas si le 2 est sorti, c'est à voir.
Et t'as bien aimé ce livre?
Oui, il est plutôt bien, je ne l'ai pas encore terminé, mais quand on le lit au tout départ, le soir, le tout début, ça te donne vraiment des frissons.
Ouais.
Et après, tu es vraiment dans l'aventure. Donc après, c'est plus dans l'histoire où est-ce que tu as quand même des frissons, mais c'est plus histoire, quoi. C'est moins...
Tu dirais à partir de quel âge on peut lire ?
Partir de 12 ans. Parce que je pense que les moins de 12 ans, après 10 ans peut-être, mais enfin, minimum 10 ans. C'est pour les petits, ça va être un peu compliqué à comprendre. Et ça va être, surtout le tout début, en fait, ça fait vraiment très très peur. Même moi, j'ai eu peur, en fait, au tout début. Je ne comprenais pas ce qui arrivait. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu lis le derrière, tu te dis, ça va être un truc aventure. Et là, tu te retrouves dans une cave très peu éclairée, avec un sort de gitan que la fille ne voit pas. Donc, tu ne peux pas te l'imaginer.
Il y a quand même un personnage à peu près de gentil dans l'histoire.
Bah, il y a du coup Lucie,
oui.
Sa mère, madame Perdido là,
Rita Perdido.
Ouais, voilà, Rita Perdido, elle est gentille, quoi. Donc et là,
c'est celle qui a créé l'agence Perdido.
Oui, voilà, c'est elle qui a créé, enfin, c'est pas elle qui a créé la toute première agence de retrouvage, mais oui. Elle a son propre agence. Après, il y a un autre enfant qui s'appelle Jack, je crois, et qui, en fait, est entre les mains d'un méchant qui se sert des retrouveurs pour aller chercher des vieilles montres en argent, se faire de l'argent. Et lui, en fait, l'enfant, il est prisonnier de là-bas parce que si jamais il s'en va, le méchant, il arrêtera de payer la maison de retraite pour son grand-père. Et du coup, son grand-père risquerait de mourir. Du coup, il est prisonnier. Et du coup, Lucie va essayer de retrouver sa mère et de l'aider en même temps.
Et il y a beaucoup de méchants ?
Là où, pour l'instant, où est-ce que j'en suis, il n'y en a que un. Après, du coup, en méchant, il y a aussi les croque-mitaines. Pour l'instant, moi, j'en ai découvert que deux. Un qui était dans la salle des pas perdus, mais qui est mort. Sauf qu'il y en a un autre qui est venu, c'est Nurse Bistro, qui est un croque-mitaine avec une blouse d'infirmière qui est vraiment terrifiante. Enfin, moi, comment je me l'imagine, elle est terrifiante. Il y a aussi le roi des ronces, ou enfin le monstre que tu vois sur la couverture, c'est le méchant, le principal, si tu veux, méchant principal. Donc, voilà.
Et ils ont des armes pour se défendre contre les croque-mitaines ?
Lucie, elle a pris une cloche qui était à Nurse Bistro, qui contrôle les cerbères. Donc, ça, c'est une arme pour dans la salle des pas perdus.
Oui.
Donc, je sais pas si ça va marcher pour les autres plus tard. Ils ont aussi une sorte de pendule. Et quand ils ont quelque chose dans leurs mains, la pendule indique où est-ce qu'il faut aller. Elle indique une direction.
Ok, merci Célian.
De rien.
Merci à tous les radioteurs qui ont contribué à cette belle émission. À Steve pour l'écriture de son histoire et à Maëlan pour son exposé sur la musique. Merci également à Juliane, Sofiane, Marie, Lila Perle et Célian d'avoir animé le plateau grâce à vos questions. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur le site de Radio Prévert et sur le site du collège Jacques Prévert. Prochainement, vous découvrirez la suite du Tueur Maléfique ainsi qu'une nouvelle série policière menée par Solal. À très bientôt!